Au mois de décembre dernier, Jean-Louis Rau, de la Société Astronomique de France, était de passage en Lozère et il a eu la gentillesse de passer par les studios de Radio Bartas pour partager avec nous sa passion, les étoiles, et plus précisément les étoiles filantes. Des étoiles qu'il ne fait pas qu'observer, mais qu'il écoute et même qu'il enregistre. Il nous parle donc du chant des étoiles, de la Lune, d'un programme scientifique appelé Fripon, de la chasse aux météorites, d'une certaine Madame Comète et de petits bouts de la planète Mars. On l'écoute tout de suite, c'était le 12 décembre dernier.
Je viens ici dans la région car je m'intéresse aux étoiles filantes. Les étoiles filantes, pour bien les observer, il faut se placer dans des endroits calmes, sans pollution lumineuse, la nuit, sans pollution radio. Et ce genre d'endroit devient de plus en plus rare en France. La Lozère fait partie de ces endroits privilégiés. Donc, chaque fois qu'il y a un essaim d'étoiles filantes, je vais raconter après un petit peu ce que c'est, je me dépêche de me rendre dans des endroits comme ça.
Et vous avez eu la gentillesse donc, de passer par nos studios pour nous parler un peu de...
Oui, parce que j'ai découvert votre radio l'année dernière. Et comme je l'appréciais, j'ai essayé de l'écouter à Paris par Internet. Et je vous ai envoyé un petit mail disant tout le bien que je pensais de votre radio. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et vous m'avez dit, venez donc nous parler des étoiles filantes.
Voilà, donc vous êtes un passionné des étoiles filantes, on l'aura compris, mais aussi au niveau professionnel.
Alors ça, c'est... je suis amateur en astronomie, je suis amateur.
D'accord.
J'ai commencé ma carrière au CNRS, c'est ce qui m'a donné le goût de ces choses scientifiques. Je travaillais sur l'ionosphère et la magnétosphère. J'ai eu l'occasion d'hiverner aux îles Kerguelen pour faire des enregistrements en tout genre. Ensuite, déjà à l'époque, ça c'était il y a 40 ans, il y avait très peu d'emplois disponibles, très peu de postes. Donc je suis rentré dans l'industrie privée et j'ai passé toute ma vie chez... autrefois ça s'appelait Thomson, maintenant ça s'appelle Thales. Travaillé beaucoup sur les sonars, les radars, etc., etc. Mais j'ai toujours gardé ce goût pour les sciences naturelles. Donc je me suis intéressé à l'astronomie et je me suis spécialisé dans l'étude des étoiles filantes. Voilà.
Et vous êtes donc aujourd'hui...
Et je suis en retraite depuis 2 ans à peu près. Donc je profite de tout ce temps libre là pour justement observer un petit peu partout.
Mais vous êtes tout de même le président de la commission radioastronomie de la Société Astronomique de France.
C'est vrai, voilà. La Société Astronomique de France qui a été fondée par Camille Flammarion au siècle, vers 1880 à peu près. Et qui, cette société est toujours très active, très dynamique et a de nombreuses commissions. Il y a des gens qui s'intéressent au soleil, aux étoiles, aux... Et moi, c'est la radioastronomie en général et puis les étoiles filantes en particulier.
Alors, qu'est-ce que la radioastronomie?
La radioastronomie, c'est une science qui consiste à observer le ciel et les étoiles et les planètes par radio. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un télescope ou une lunette, on utilise des récepteurs radio. Il y a d'immenses paraboles. Par exemple, on en trouve à Nancy, qui est un grand centre de radioastronomie en France. Il y en a aussi dans le sud de la France. Et on écoute les bruits émis par le Soleil, émis par le couple Jupiter-Io. Ces deux systèmes, là, le Soleil et Jupiter et Io, peuvent être captés avec des moyens amateurs. Il suffit d'une antenne assez simple, un récepteur du commerce ou qu'on peut fabriquer soi-même, et on entend des bruits du Soleil. Le Soleil, de temps en temps, se fâche, ça crée des aurores, et puis ça fait des bruits qu'on peut recevoir par radio. Il y a des étoiles, des pulsars qui émettent aussi des impulsions. Donc ça permet aux astronomes d'étudier plus en détail, de ne pas se cantonner à l'optique, mais aussi de faire par la radioastronomie, d'avoir des informations complémentaires. Il y en a même qui en font de la musique. On peut faire de la musique avec les étoiles filantes aussi.
Les étoiles filantes, vous les entendez
oui,
aussi.
Oui, oui.
D'accord.
Oui, oui. Je suis en train d'installer, je suis installé au Bondon, là, à peu près de petit dôme, là, et je suis dans un gîte rural, donc loin de tout parasite, loin de toute lumière parasite et de parasites radio. Et donc, j'ai installé des antennes. Il y a une antenne qui permet de détecter les météores quand ils passent, parce que la traînée lumineuse qu'on voit, c'est également une traînée dite ionisée, c'est-à-dire qu'un météore arrive à toute vitesse, à des dizaines de kilomètres par seconde dans l'atmosphère. Et le frottement avec l'air est tellement violent, la température monte à 3000 degrés, et ça ionise l'air, c'est-à-dire les électrons des molécules d'air sont arrachés. Et ça réfléchit des ondes radio. Imaginons que j'habite par exemple à Clermont-Ferrand ou à Limoges, et que je règle mon poste sur Radio Barthas, je ne reçois pas, parce que l'émetteur de Florac est trop loin, derrière l'horizon. Par contre, si une étoile filante passe entre vous et puis Clermont-Ferrand, où je suis, eh bien, d'un seul coup, je vais entendre le programme de Radio Barthas pendant 2 ou 3 secondes, le temps que cette traînée lumineuse se dissipe et que les électrons se recombinent avec les atomes. Voilà, donc le moyen radio, on utilise un émetteur lointain, on règle son récepteur dessus, et on n'y touche plus, et on enregistre en permanence. Et on n'entend rien, sauf quand une étoile filante arrive. Et là, ça crée un sifflement. En mesurant la fréquence du sifflement, on arrive à calculer la vitesse de l'objet, donc c'est très intéressant. En fonction de l'amplitude du signal, si c'est un gros signal, on suppose que c'est un gros météore qui se transformera peut-être en météorite, parce qu'il arrive par exemple à 50 km par seconde dans l'atmosphère, mais il est freiné violemment, et puis il finit par tomber en chute libre, et puis il tombe dans un champ. Et là, on peut le ramasser, l'étudier physiquement, chimiquement, voir d'où il vient.
Donc une étoile filante, c'est un météore, et c'est ce qu'on appelle une météorite une fois que c'est tombé à terre.
Voilà. C'est avant, quand ça se balade tout seul dans l'espace, c'est un météoroïde qui devient un météore. Un météore, c'est tout phénomène lumineux dans le ciel d'ailleurs. Un gros nuage, un éclair, on peut appeler ça un météore aussi. Mais enfin, on l'utilise beaucoup pour les étoiles filantes. Et puis, s'il est assez gros, il ne se volatilise pas totalement, et il tombe par terre, et à ce moment-là, ça devient une météorite. Ouais.
Comment elles naissent, les étoiles filantes ?
Eh bien, justement, on aimerait bien le savoir. C'est compliqué. Il faut remonter à l'origine du système solaire. Au début, il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas de soleil. Il y avait simplement du gaz diffus dans le vide, qui provient peut-être d'une explosion d'une étoile plus ancienne. Et donc le système solaire s'est construit progressivement, c'est-à-dire ce gaz, ce nuage de gaz et de poussière, avec les forces de gravité, ils se sont attirés les uns les autres, tous les petits grains, qui sont transformés en grains plus gros, qui sont transformés en cailloux, qui se finissent par se devenir une vraie comète. Vous avez entendu parler de la comète Churyumov, un nom assez compliqué, là, il y a une sonde spatiale, Philae, qui est allée européenne, qui est allée se poser sur une comète. Donc une comète, c'est aussi un embryon de planète, et tout ça, ça finit par se regrouper, et ça a créé la Terre, ça a créé Vénus, Jupiter, et le Soleil aussi. Parce que ce gaz, à force de s'agglomérer, de se comprimer, il est devenu de plus en plus chaud, ça a déclenché des réactions nucléaires qui font que le soleil est là, il nous éclaire et nous réchauffe. Mais tout ne s'est pas aggloméré, donc il reste encore des petits météoroïdes qui se promènent. Pendant longtemps, on a cru qu'ils étaient sur des orbites stables. Donc on sait qu'il y a une ceinture qu'on appelle la ceinture principale, où il y a des tas de petits objets, là, comme ça. Ce qui pose des problèmes, d'ailleurs, quand on dit, tiens, on va aller sur Mars, on va aller envoyer l'homme sur Mars, il va falloir quand même se protéger contre ces cailloux errants, là. Et donc, en réalité, on s'est rendu compte récemment qu'il y a des migrations, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui pouvaient être extrêmement loin du Soleil, mais qui, au fil des millions d'années qui s'écoulent, ils se promènent et ils changent d'orbite, et ils se regroupent, par exemple, dans la ceinture principale. Donc la ceinture principale, c'est un endroit merveilleux pour les astronomes, parce que s'ils arrivaient à ramasser, à attraper des cailloux de cette région-là, ils auraient une photographie de tout le système solaire complet. Et alors ces cailloux, parfois, s'entrechoquent. Deux astéroïdes peuvent s'entrechoquer, ça fait des débris qui sont éjectés, et puis il y en a certains qui croisent l'orbite de la Terre. Et quand la Terre arrive dans ces groupes de petits cailloux, ça fait une pluie d'étoiles filantes. Les étoiles filantes, il y en a qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire tous les jours, en ce moment même, là, il en tombe, moi, avec mon système radio, j'en détecte à peu près 400 par heure.
Ah oui.
Donc, oui, c'est, y a beaucoup, mais la majorité sont tout petits, hein, c'est gros comme un grain de sable, mais c'est, ça a suffisamment d'énergie cinétique pour quand même faire une traînée lumineuse et être vu. Et ça, donc, c'est une origine des étoiles filantes, donc des gros astéroïdes qui s'entrechoquent, qui se brisent. L'autre source, ce sont les comètes. Les comètes, ce sont des petits corps du système solaire qu'on compare souvent à des boules de neige sales. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'eau, mais avec des tas de petits cailloux dedans. Quand la comète est très loin du Soleil, elle a une orbite elliptique. Quand elle est très loin du Soleil, elle est passive, elle dort. Par contre, quand elle se rapproche du Soleil, elle se réchauffe. Ça fait de la vapeur d'eau qui éjecte tous ces petits cailloux. Donc derrière une comète, sur son orbite, vous avez toute une traînée de poussière, de petits cailloux. Et la Terre, une fois par an, traverse l'orbite de plusieurs comètes comme ça. C'est pour ça qu'on peut prédire, là je suis aujourd'hui 12 décembre, samedi qui vient là, nous allons traverser une orbite de comètes très poussiéreuse. Et donc, c'est la plus grosse pluie d'étoiles filantes de l'année, au mois de décembre. Ça sera samedi vers 19h, heure locale. Donc, si le ciel est dégagé, à 7h, il doit faire nuit à Florac, je pense.
Oui. Ben,
regardez, éloignez-vous un peu de la ville quand même, pour ne pas être ébloui par l'éclairage public. Et puis,
alors,
vous en verrez, vous en verrez.
Moi, j'avais en tête, comme beaucoup de personnes, je pense, le mois d'août, autour du 15 août,
bien
pour
sûr.
Les étoiles filantes, mais ce n'est pas le seul moment. Et c'est...
Non, ça, c'est les Perséides. Alors, on nomme les essaims, les pluies d'étoiles filantes, suivant la constellation d'où ils viennent. Donc, en été, vous me parlez du mois d'août, ce sont les Perséides, ça vient de la constellation de Persée, que tout le monde connaît, parce qu'au mois d'août, on est en tongs, en short, il fait beau, on traîne le soir dehors. À mi-décembre, c'est pas pareil. Déjà, le ciel est moins clément, il fait froid, il pleut, mais en réalité, c'est là le plus gros essaim. Donc si le ciel est dégagé samedi soir, ça devrait être un beau spectacle. Ouais.
Et alors là, ce samedi, on est dans quelle constellation du coup ?
Là, ça sera les Gémeaux, c'est les Géminides. Et il y a aussi les Léonides, il y en a un autre vers le 4 janvier, je ne sais plus, je crois que ce sont les Léonides, qui est assez intéressant. Et alors, c'est un peu le hasard, certaines années, on traverse une partie de l'orbite qui est très poussiéreuse, et puis d'autres fois, non. Donc les astronomes s'évertuent à faire des prévisions, et sont justement intéressés par les amateurs comme nous, qui faisons des observations systématiques, parce que comme ça, ça permet d'affiner leurs prédictions, et leurs modèles, leurs calculs d'orbite et tout ça. On est quelques dizaines en France à faire ça. Il y a des gens qui ont une caméra vidéo avec un objectif qu'on appelle un fisheye, c'est-à-dire un objectif très grand angle. Donc la caméra, elle regarde tout le ciel en même temps, sur 360 degrés. Et il y a des logiciels qui pilotent ça. Ça analyse les images, ça calcule la vitesse, la direction de l'étoile filante. C'est mis dans une base de données sur Internet, accessible à tous. Donc, c'est très intéressant parce que quand on est à plusieurs observateurs en même temps, on arrive à localiser exactement d'où vient l'étoile filante et parfois même prédire où elle va tomber. Et à ce moment-là, on fonce, on embauche des lycéens ou des écoliers et puis on fonce sur le terrain, à l'endroit prévu, de chute. Enfin, les calculs ne sont pas suffisamment précis. Il faut quand même crapahuter un certain nombre de kilomètres avant d'en ramasser.
Il s'en trouve beaucoup de météorites ?
Oui.
Et alors, ces météorites, elles sont faites dans quelle matière ?
Alors, soit ce sont des météorites pierreuses, donc c'est de la pierre, quoi. Il y en a de différentes couleurs. Il y a des cristaux de toute beauté. On peut couper, si on fait des tranches de météorites très très fines, on peut les regarder au microscope par transparence ou par réflexion, et on voit des cristaux magnifiques d'olivine, de différents matériaux. Et puis alors, il y a des météorites qui sont totalement métalliques. C'est un gros bout de fer.
C'est toujours des matières qui existent sur notre planète.
Oui, notre planète est constituée d'une agglomération fantastique de météorites.
D'accord.
Et la Lune, notre Lune qui tourne autour de la Terre, est un morceau arraché de la Terre. Au début du système solaire, il y a 5 milliards d'années, ou 3 milliards d'années, je ne sais plus, pour la Lune, il y a eu un énorme bolide qui a choqué, qui a frappé la Terre et qui en a arraché un morceau. Et ce morceau tourne autour de nous et c'est la Lune. Donc, effectivement, c'est la même matière partout, et nous-mêmes sommes faits de ces atomes-là, et poussière d'étoiles, là, il y a Hubert Reeves qui a comparé ça à poussière d'étoiles, ouais. Voilà ce que je peux vous dire sur ces étoiles filantes. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bartas et nous venons d'entendre Space Oddity de David Bowie. Tout de suite, nous retrouvons la suite de l'interview de Jean-Louis Rau.
Qu'est-ce que je fais de mes enregistrements ? Il y a un premier usage, c'est de compter les météores. de voir qu'ils sont présents. Quand il va y avoir la pluie samedi prochain, la pluie d'étoiles filantes des Géminides, on va voir exactement le nombre monter, on trace une courbe, on voit que ça augmente, on regarde exactement à quelle heure a lieu le pic du phénomène, et ça, ça intéresse beaucoup les astronomes. Comme ça, ça leur permet d'affiner leur modèle de prédiction. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça n'est plus de l'astronomie, c'est plus de la géophysique. Parce que tous ces phénomènes d'étoiles filantes, là, se produisent à peu près à 80 km de haut. C'est la limite de ce qu'on appelle l'ionosphère, c'est-à-dire autour de la Terre, il y a une couche, il y a plusieurs couches d'air ionisé. Et celle-là, vers 80 km de haut, on a tendance à l'appeler l'ignorosphère plutôt que l'ionosphère, tellement on sait peu de choses dessus. Parce que 80 km, c'est trop haut pour des ballons, donc on ne peut pas envoyer des ballons scientifiques avec des caméras ou des choses comme ça. Les ballons, ça plafonne à 30 ou 40 km. C'est trop bas pour les satellites. Un satellite à 80 km de haut, il est freiné par l'air et il se désintègre très vite, il brûle très vite. Donc on ne sait pas explorer facilement cette partie de l'atmosphère. Il y a un moyen coûteux et ponctuel, ce sont les fusées. On envoie des fusées sondes. J'ai hiverné autrefois aux îles Kerguelen où on tirait, c'était un programme franco-soviétique encore à l'époque, entre le CNRS et puis un labo russe, on tirait des fusées comme ça qui montaient à 80 km de haut. Donc vous voyez que mon attrait pour les météores et l'ionosphère remonte à loin. Mais c'est très coûteux et puis c'est ponctuel, ça. La fusée ne fait des mesures qu'à l'endroit où elle est et puis elle retombe après. Mais les météores nous servent de sonde parce que quand ils traversent la couche d'air, donc ça fait un trait lumineux, ça réfléchit les ondes radio, puis après, la traînée, elle dérive avec les vents qui existent en altitude. Et grâce à la radio, on a pu découvrir qu'il y avait des vents très violents de plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de mètres par seconde à 80 km de haut. Et ça, c'est une retombée de ce type d'études. Et le troisième point, qui est vraiment mon dada, alors c'est celui-là qui me passionne le plus. Comment expliquer ça? Ça fait des centaines d'années qu'il y a des témoins dignes de foi qui voient une étoile filante la nuit et qui disent « Bon, j'ai vu une étoile filante et je l'ai entendue en même temps. » Alors ça défie un peu les lois de la physique parce que le son, il se propage à 340 mètres par seconde. Si le météore est à 80 km de vous, vous pourrez peut-être l'entendre, mais 5 minutes après, mais pas en même temps, pas en même temps. Alors tout le monde s'arrachait les cheveux en disant « mais comment est-ce possible ?» Et puis c'était vraiment on a des collections de témoignages, ça arrive relativement fréquemment. Et il y a un scientifique qui a dit « ben ça c'est peut-être parce que les météores eux-mêmes, ils émettent une onde radio quand ils sont freinés là. Cette onde radio, elle se propage à 300 000 km seconde, enfin pratiquement instantanément. Donc cette onde radio peut atteindre l'observateur quasiment instantanément. Et par un phénomène qu'on ne connaît pas, qu'on ne s'explique pas encore, cette onde radio est transformée en onde sonore. Et donc, on entend un bruit. Alors, il y a des gens qui ont fait des statistiques sur les types de bruit. Il y en a qui parlent de crépitement, d'autres de souffle, de bruit d'avion en réaction, des choses comme ça. Mais ce n'est pas encore prouvé, tout ça. Ce n'est pas encore prouvé. Donc, je fais partie des rares personnes dans le monde qui s'intéressent à ça et qui essayent de capter ces émissions radio. Donc en réalité, au Bondon, j'ai deux antennes, deux systèmes d'antennes. Une antenne qui permet de voir qu'il y a un météore qui passe, donc j'enregistre, c'est un petit enregistreur stéréo. Hein. Donc sur un des canaux, sur une des voies, j'enregistre le bip qui montre que le météore est passé. Et sur l'autre piste de l'enregistreur, j'enregistre toutes les fréquences radio les plus basses, entre 0 pratiquement, entre 0 et 24 kHz à peu près. Et après, je dépouille ça à la main, je fais des corrélations pour essayer de voir si, effectivement, quand un météore passe, il y a eu une émission radio. Et j'en trouve. Donc c'est encourageant. Mais comme ce sont des mesures faites de façon, des résultats statistiques, il faut en faire beaucoup pour être sûr, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une seule fois une coïncidence, dire « ça y est, Eureka, j'ai trouvé ». Il en faut des centaines. Donc j'ai déjà analysé 500 échantillons comme ça, puis là je vais continuer. Puis je vais en engranger d'autres bientôt.
D'accord. Est-ce qu'il y a une évolution du nombre de météores ou de météorites? Est-ce que tout ça a change au fil des siècles ou des millénaires?
Oui. Au XIXe siècle, parlons des météorites, hein, c'est-à-dire que celles qu'on trouve. Au XIXe siècle, il en a été trouvé 53, je crois, une cinquantaine, apportées par les agriculteurs qui l'avaient trouvé dans leur champ ou dans le village. Ils l'amenaient aux pharmaciens ou aux curés qui faisaient remonter ça après au Muséum d'histoire naturelle. Donc, 19e siècle, 53. 20e siècle, 12.
Ah oui.
Or, la nature, elle est toujours là, il y en a toujours autant, mais qu'est-ce qui se passe? Le mode de vie a totalement changé. Les gens, le soir, ils sont devant la télévision, les villes sont de plus en plus lumineuses, donc on ne voit plus d'étoiles filantes quand on est en ville. Les agriculteurs, maintenant, sont souvent perchés sur leurs tracteurs, ils ne sont plus directement en contact avec la terre comme ils l'étaient autrefois derrière leur cheval ou leur charrue. Et donc, ils observent moins, ils trouvent moins de météorites qui sont un objet inhabituel, quoi. Mm-hmm. Alors qu'ils continuent à en tomber autant.
D'accord, ça n'a pas changé au niveau de la quantité, en fait.
Non, c'est
juste...
Voilà. Alors, voyant cela, justement, le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides, IMCCE, se sont associés et ont trouvé un financement pour rechercher, pour détecter les météorites, pour les observer. Donc ça intéresse deux catégories de scientifiques. Ça intéresse les astronomes qui essayent de voir d'où viennent ces météorites pour remonter à l'histoire du système solaire. Et puis ça intéresse le Muséum d'Histoire Naturelle aussi. Une fois que le caillou est tombé par terre, qu'on l'a ramassé, ils souhaitent l'analyser chimiquement, physiquement, pour compléter aussi les connaissances dans ce domaine-là. Et donc, ça a démarré cette année, en 2014, les crédits sont arrivés en début d'année. L'IMCCE et le Muséum ont lancé le programme Fripon.
Joli nom.
Joli nom. Et je ne me rappelle jamais exactement ce que ça veut dire. C'est de l'anglais, c'est Fireball Recovery of Interplanetary, je ne sais quoi, Network. C'est-à-dire réseau d'observation des objets interplanétaires. On avait déjà des caméras Cabernet, il y a toujours un petit peu d'humour là dans l'équipe. Et donc le programme Fripon est démarré, financé par l'Agence nationale de la recherche et par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. On se demande pourquoi ça les intéresse, mais enfin bon. Donc on est en train d'installer des caméras partout en France, tous les 100 km à peu près, dans des institutions en général, soit des écoles, des laboratoires, des clubs d'astronomie. On ne fait pas appel à des individus, parce que quand on s'adresse à une personne, un individu, c'est pas toujours pérenne, c'est-à-dire la personne peut se lasser ou peut déménager, enfin il peut lui arriver des tas de choses qui font que... Parce que c'est un programme qui va durer une dizaine d'années. Donc il faut quand même quelque chose de plus pérenne. C'est pour ça qu'on s'est retourné vers les associations, les clubs d'astronomie ou les labos scientifiques. Donc on est en train d'installer des caméras partout, avec des récepteurs radio également.
Donc ces fameuses caméras qui
regardent
le ciel sur 360 degrés.
Voilà. C'est un objectif qu'on appelle œil de poisson, la fisheye. C'est un très grand angle, donc ça permet de filmer tout le ciel en même temps. Il y a déjà un prototype qui a été installé à l'Observatoire du Pic du Midi. Il y en a un à l'Observatoire de Paris aussi. On a installé deux récepteurs radio à l'Observatoire de Paris. Et ça marche bien. Ça marche bien. On craignait, même en pleine ville comme ça, qu'il y ait beaucoup de parasites radio. Mais ça peut aller. L'Observatoire de Paris, il y a encore des jardins, il y a un petit peu d'herbe. Et bon, les immeubles ne sont pas trop denses. Et les caméras peuvent être installées en pleine ville, parce que ce qu'on cherche, c'est les météorites. Donc si c'est une météorite qui arrive jusqu'au sol, c'est que l'objet était assez gros. Et donc s'il est gros, il est très lumineux. Donc même avec les éclairages urbains, ça fait rien, on les voit quand même. Donc fin 2015, on aura couvert tout le territoire français avec des caméras. Et on se rend compte maintenant que ça intéresse d'autres gens que les astronomes. Par exemple, le Muséum d'Histoire Naturelle, il y a... des gens qui s'intéressent aux chauves-souris, eh bien d'avoir des caméras comme ça qui couvrent tout le territoire, on va pouvoir surveiller l'activité de ces petites bestioles. Hein. Et donc on va filmer aussi les chauves-souris. On va les enregistrer avec des microphones, puisqu'il y a déjà toute l'électronique nécessaire avec les récepteurs radio et tout ça. Si on rajoute un micro, on pourra aussi enregistrer les cris de chauve-souris. Il y a des gens que la météo intéresse, ces caméras aussi vont surveiller le ciel, donc en temps réel, on saura connaîtra l'aspect du ciel. Et alors, c'est de la science participative, c'est-à-dire Fripon a pour vocation d'intéresser les gens à ça. Donc, il y a déjà un site, si vous tapez fripon.org sur Internet, vous tomberez sur le site du programme Fripon qui vous explique et qui vous propose d'y participer vous-même.
Qui peut y participer ?
Tout volontaire.
D'accord.
Alors, selon vos compétences et vos envies, vous pourrez, si vous le souhaitez, installer une caméra et un récepteur radio chez vous, dans votre jardin, ou sur le toit de votre immeuble, et vous intégrer au réseau. Si vous faites ça, on vous demandera d'utiliser du matériel que nous avons homologué pour que les mesures soient rigoureusement identiques aux autres, et c'est avec grand plaisir qu'on accueillera vos observations. Ça, c'est une façon de participer, en radio et ou en vidéo. Et puis après, il y a la chasse aux météorites. Quand elles sont tombées, il y aura un grand branle-bas de combat pour aller sur le terrain le plus vite possible pour la ramasser. Le plus vite possible. Pourquoi le plus vite possible ? D'abord parce qu'elle est fraîche. Si elle reste trop longtemps sur le terrain, dans un champ par exemple, il va pleuvoir, il va neiger, il va y avoir du soleil, tout ça, ça dégrade la constitution chimique de la météorite. Et puis, il y a des petits fripons, justement, si on peut dire, qui se dépêchent, qui en font commerce. Une météorite, ça vaut en prix, c'est comparable au prix de l'or. Donc, il y a tout un commerce qui se fait. Il y a des gens qui en font métier.
Pour des collectionneurs ou pour...
Oui, ça se revend. Il y a un marché pour les collectionneurs. Et tous ces trucs-là échappent aux scientifiques, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on se dépêche de les ramasser.
Donc, vous avez l'indication de vers où tombe cette météorite
et c'est à un kilomètre, deux kilomètres. Une ellipse, ou... non, une ellipse de quelques kilomètres. Donc, il va falloir arpenter les champs.
C'est ça. Donc, vous partez en battue, en fait.
On part en battue. C'est exactement ce qu'on fait. On donne tous les volontaires se mettent en ligne à quelques mètres l'un de l'autre. Ils tiennent une ficelle pour bien rester à la même distance. Et puis, ils avancent lentement en regardant partout par terre. Et tout ce qui est bizarroïde est ramassé. Et ça fonctionne. Hein. Il y a des pays de l'Est, les Hongrois, ont déjà vu une météorite, un météore, calculé l'orbite, déterminé le point de chute. Et ils ont trouvé des centaines de morceaux. Parce qu'après, ça tombe en pluie fine. D'abord, les petits morceaux. Les plus lourds d'abord, puis les plus légers ensuite. Et oui, on peut en ramasser des centaines de kilogrammes. Mais ça ne tombe pas toujours sur Terre. La Terre, elle est constituée pour 70% d'eau. Donc, vous voyez, il y a les trois quarts tombent en mer ou même dans des endroits inaccessibles. Il y en a une qui est tombée à côté de chez moi. J'habite en Île-de-France. Elle est tombée à Draveil. C'est une dame qui s'appelle Madame Comète. Ça, il faut le faire. Elle a vu un rond à l'occasion d'une averse de pluie, de l'eau. De pluie, elle a vu que son plafond prenait l'eau dans son salon. Alors, elle est allée voir dans le grenier. Elle a trouvé un petit trou dans une tuile. Et puis, au pied du petit trou, il y avait une météorite. Ça avait traversé son toit et c'était tombé. Là. Donc, vous voyez, ça peut tomber partout, même en pleine ville. Mais enfin, c'est rare, quand même.
C'est de quelle taille, en moyenne ? Comme une balle de tennis ?
Ça peut être ça, oui. Ça peut être énorme... Vous avez entendu parler de Tcheliabinsk en Russie, c'était en avril, c'était au mois d'avril, un énorme bolide de plusieurs tonnes qui a survolé la ville. Ça fait une énorme traînée lumineuse, c'était en plein jour. Donc les gens qui travaillaient, qui étaient dans le bureau, dans les pièces, ils se sont tous précipités à la fenêtre pour voir qu'est-ce que c'était que ce truc lumineux. Et à ce moment-là, il y a l'onde de choc sonore qui est arrivée et qui a cassé des milliers de carreaux. Donc il y a eu des milliers de blessés à cause de cette grosse explosion-là.
Et alors, elle n'avait pas pu être prévue ?
Non, celle-là, on ne l'avait pas vue. Non. Elle s'est approchée très vite de la Terre, parce que c'est quand même pas gros. Hein. Parfois on arrive à voir des astéroïdes et à les suivre et calculer leur dangerosité, mais celle-là, non. Et ils ont mis plusieurs jours pour retrouver, et le morceau principal faisait plusieurs tonnes, je crois, et a été trouvé au fond d'un petit lac. Et enfin, des gros comme ça se produit une fois par siècle. Et puis je vous disais, La plupart du temps, ça tombe dans l'eau, ça tombe en mer. Donc tomber sur une ville ou un endroit habité, c'est extrêmement rare. On ne connaît même pas le tonnage. Quand on regarde les publications scientifiques, ça va de quelques tonnes par jour à quelques dizaines de tonnes. On ne sait pas. On sait pas. Ça fait partie des choses à étudier encore. On a déjà fait cet été à Fleurance. Il y a un grand festival d'astronomie tous les étés à Fleurance. Là, on a fait une répétition avec des gens, des volontaires, pour apprendre à fouiller dans le champ. Donc on avait disséminé dans les champs des fausses météorites et puis des vraies. Et ils les ont tous trouvées, donc c'est très encourageant.
Mais le but était de leur apprendre à faire la différence entre un caillou et une météorite.
Oui.
Et
ça se reconnaît. En général, ce sont des cailloux qui sont sombres et très lisses, parce qu'ils ont été polis, comme ils ont été chauffés et frottés par l'air très violemment. Ils ont une forme, c'est difficile à expliquer comme ça, verbalement, mais on dirait une pierre fondue, un petit peu, si vous voulez.
C'est très rond ou
Oui, c'est ça, voilà. Sauf quand ça... parfois, ça éclate en morceaux. À ce moment-là, il y a des angles vifs. Sinon, c'est un peu comme une pierre polie, si vous voulez, d'aspect très sombre. Alors, certains préconisent, pour les trouver sans se pencher, un peu comme les boulistes marseillais, vous savez, qu'un aimant là, pour ramasser la boule. Nous, on dit surtout ne faites pas ça, parce que le fait de mettre un aimant, et effectivement, si la météorite est métallique, vous allez la détecter, mais vous déformez son champ magnétique interne. Et ça, c'est une information intéressante pour les scientifiques aussi. Donc, n'utilisez pas d'aimant, utilisez vos yeux, et ça sera mieux. Et alors, quand on trouve un caillou comme ça, ben on le met dans un sachet en plastique, on le date, on note l'endroit exact où on l'a trouvé, et puis après, il ira dans les armoires du Muséum d'Histoire Naturelle.
Donc le muséum étudie leur matière.
Oui.
Et cette matière, c'est la même depuis la nuit des temps. Il n'y a jamais eu de surprise par rapport à ça.
Des fois, il y a des bonnes surprises, mais très rarement, on a trouvé des bouts de lune, comme ça. Imaginez un gros météore qui tombe sur la lune. Ça crée un cratère. Ça fait des tas de petits morceaux qui s'envolent, et il y en a qui ont suffisamment d'énergie qui reviennent sur Terre. Donc ceux-là sont très rares, et il y en a même de la planète Mars aussi. On a quelques petits bouts de planète Mars. Alors, c'est effectivement moins coûteux que d'envoyer un rover ou une sonde spatiale d'aller récolter ça dans le champ. Enfin, on en trouve moins. Mais enfin, c'est moins onéreux.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Louis Rau, d'être passé par les studios de Radio Bartas.
Merci à vous, Cécile.
Et donc, bonne observation et au plaisir, peut-être, lors d'un prochain passage en Lozère.
Ah, avec plaisir.
Merci, Jean-Louis.